Allô docteur. Allô docteur, sur Radio Orient.
Bienvenue à toutes et à tous dans cette émission dédiée à un sujet de santé de public majeur, l'obésité, ce phénomène complexe qui touche des millions de personnes à travers le monde, soulève des questions sur nos modes de vie, notre alimentation et même notre environnement. Pour mieux comprendre les enjeux médicaux, psychologiques et sociaux de l'obésité, nous avons le plaisir d'accueillir Dr Khayat, endocrinologue, qui partagera avec nous son expertise et ses conseils. Ensemble, nous explorons les causes, les conséquences et les solutions possibles pour mieux vivre et prévenir l'obésité. Bonjour docteur.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation pour la troisième ou la quatrième fois, je pense.
Merci beaucoup, je suis vraiment
Vous faites
ravie
partie
d'être
alors
là.
De cette émission. Allô docteur, on est vraiment, vous êtes le bienvenu à chaque fois. Et à chaque fois, vraiment, vous nous rapportez des éléments et des éclairages très importants pour notre santé. Donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important, l'obésité, Soumna. Il y en a qui ne prennent pas au sérieux ce sujet, mais aujourd'hui, on va découvrir avec vous, bien sûr, tout d'abord, comment définir l'obésité.
Alors, l'obésité, en arabe, ça s'appelle la Soumna, est définie par... C'est un calcul qu'on appelle l'indice de masse corporelle. Alors l'indice de masse corporelle, ça veut dire que c'est le poids, le wazn, divisé par la taille au carré. Donc le wazn fok tol au carré, et ça donne un chiffre. Et l'obésité est définie à partir du moment où on a un indice, un IMC.
Un exemple.
Supérieur à 30. Donc supérieur à 30, ça veut dire l'obésité, donc à partir d'un chiffre de 30. Le poids normal étant inférieur, avec un indice de masse corporelle inférieur à 25. Entre 18,5 et 25, c'est un poids normal.
Des fois, quand on achète les balances pour se peser à la maison, on voit vert et rouge. Quand ça arrive rouge, je pense qu'il y a un problème.
Non, en fait, la balance avec la coloration n'induit uniquement votre poids.
D'accord.
Mais il faut le comparer avec, c'est-à-dire il faut vraiment l'indice de masse corporelle avec le poids et la taille, parce que quand on est grand, c'est pas la même chose en fonction du poids. Donc le poids divisé par la taille au carré, ça vous donne ce qu'on appelle l'IMC, et l'indice de masse corporelle, qui vous donne un chiffre. Et ce chiffre, on est obèse à partir de chiffre 30. On est en surpoids si on dépasse 25 d'IMC.
Comment on peut diagnostiquer l'obésité, docteur Khayat?
Donc c'est exactement la même chose. L'obésité est définie donc par l'IMC. Et l'IMC, quand il dépasse 30, il y a plusieurs niveaux d'obésité ou de grades d'obésité. Donc l'obésité grade 1, ça veut dire qu'on a un IMC entre 30 et 35. Et après, on a l'obésité grade 2 entre 35 et 40. Après, entre 40 et 50, c'est la grade 3. Et au-delà de 50, on appelle ça l'obésité massive. On peut la classer grade 4, mais enfin, il n'existe pas le grade 4. On appelle ça l'obésité massive à partir de 50. La maigreur, c'est quand on a un chiffre entre 16,5 d'IMC et 18,5. Et en dessous de 16,5, surtout en dessous de 15,5, ça veut dire qu'on est vraiment dénutri, voilà. Voilà la classification de grade.
D'accord. Alors, quels sont les principaux facteurs qui contribuent à l'obésité, docteur Khayat?
Alors, l'obésité est franchement très, très multifactorielle. En fait, il y a beaucoup, beaucoup de facteurs qui interviennent. Donc, il y a le premier facteur qui est très important, le facteur familial et génétique, c'est-à-dire quand on a des antécédents dans la même famille qui sont... des frères et sœurs qui ont du surpoids, on a du risque de faire du surpoids. Après, vous avez des facteurs d'environnement, ça veut dire la façon de vivre, la façon de manger,
le mode de vie,
l'activité physique. Mm-hmm. Et puis après, voilà, tout ce qui est partie aussi psychologique, c'est-à-dire les troubles de comportement, ce qu'on appelle le TCA, troubles de comportement alimentaire. Donc, et puis aussi la possibilité d'avoir des maladies qui donnent la prise de poids, par exemple l'hypothyroïdie, certaines maladies hormonales, et aussi certains médicaments. Les personnes qui prennent des médicaments notamment ce qu'on appelle les médicaments pour les psychotropes, c'est-à-dire pour comme les neuroleptiques certains médicaments pour la dépression, peuvent donner du poids. Donc, il y a énormément de facteurs qui interviennent.
Alors, ce n'est pas uniquement alimentaire.
Ce n'est pas uniquement alimentaire. L'alimentation intervient en partie, mais pas uniquement alimentaire.
Mais on peut régler le problème par l'alimentation. Je pense qu'on va parler de ça dans cette émission.
Bien sûr. C'est-à-dire, il n'y a pas que l'alimentation. Mm-hmm. Il y a l'alimentation, l'activité physique. Et puis, on a de la chance d'avoir maintenant certains médicaments qui apportent vraiment des très bons résultats avec beaucoup de bénéfices aussi pour la santé.
Docteur Khayat, peut-on parler d'une prédisposition génétique à l'obésité?
Ah oui, la génétique, j'en ai parlé tout de suite, ça intervient énormément. Il y a certains marqueurs génétiques qu'on a réussi.
Ça veut dire si les parents sont obèses,
oui, bien sûr.
L'enfant peut être obèse.
Oui, oui, tout à fait. La génétique intervient. Les microbiotes aussi interviennent aussi. Notre intestin, on sait que, par exemple, un exemple bien connu, parce qu'il y a eu des études qui ont été faites, les enfants qui sont nés de césarienne, qui n'ont pas eu la chance de passer par le tractus génital, et donc ils n'ont pas bénéficié de microbiote pendant la naissance, ils ont plus de risques de faire de l'obésité que les enfants qui sont nés.
C'est quoi le microbiote pour les auditeurs qui nous écoutent? Le fameux microbiote, tout le monde en parle en ce moment.
Alors, le microbiote, ce sont des bactéries qu'on a dans notre intestin qui ont beaucoup différents rôles et qui contribuent à beaucoup de choses dans la santé, notamment la maîtrise du poids et pas seulement que ça, pour plein d'autres choses. Hein. Donc, les microbiotes, ça agit aussi pour éviter certaines maladies, le diabète, etc.
On les a naturellement
On
peut aller les chercher.
On les a naturellement. Actuellement, il y a des commerces de microbiote. On n'est pas sûr que ça marche. Mais on sait que il y a des études qui sont en cours. Et quand on remplace les microbiotes d'un patient, par exemple, avec des microbiotes d'un patient en bonne santé, parfois on a des effets très, très spectaculaires pour plein de maladies, même la dépression.
Quels sont les impacts de l'obésité sur la santé physique et mentale, docteur Khayat?
Alors, l'obésité, malheureusement, a des effets négatifs sur beaucoup, beaucoup d'appareils de notre corps. Pratiquement tous les systèmes sont touchés. Le système psychologique, avec notamment la dépression, c'est plus fréquent chez les personnes obèses. Le système pulmonaire, avec l'asthme, qui est beaucoup plus fréquent chez les personnes qui ont du surpoids et de l'obésité. Je parle des maladies cardiovasculaires, donc l'hypertension artérielle, le problème de cholestérol, le problème d'infarctus, le problème d'insuffisance cardiaque qui est beaucoup plus fréquente chez les patients obèses, le diabète, hein, d'accord, et puis tout ce qui est mécanique aussi, sans oublier par exemple l'arthrose, la plus fréquente chez les personnes obèses, c'est la gonarthrose, c'est l'arthrose des genoux, je crois.
Donc
le HHA, c'est l'ostéoporose, donc c'est autre chose, mais ça fait partie aussi des complications. Donc c'est beaucoup, beaucoup de choses qui sont touchées, l'accident vasculaire cérébral, donc ça touche énormément de parties.
Est-ce que les femmes sont touchées?
La fertilité aussi, j'ai oublié. Ouais. La fertilité, le syndrome des ovaires polykystiques, la fertilité diminue beaucoup avec l'obésité.
Est-ce que les femmes sont touchées plus que les hommes, docteur Khayat?
Non, pratiquement, il n'y a pas beaucoup de différence. Hein. En France, il y a 17% d'obèses, ça veut dire qu'avec un IMC supérieur à 30, ce qui correspond en France à environ à 8,5 millions de patients obèses. Mmh. Et si on prend l'obésité plus la surcharge du poids, c'est pratiquement une personne sur deux en France qui est touchée soit par le surpoids, ou soit par l'obésité, donc 49,9% à peu près. Entre les hommes et les femmes, il n'y a pas beaucoup de différence, c'est entre 17 et quelques, et les femmes c'est 18 et quelques, donc il y a presque il n'y a pas beaucoup de différence.
L'environnement moderne, docteur Khayat, publicité, fast-food, sédentarité, est-ce qu'il favorise l'obésité?
Oui, évidemment, l'environnement, les produits transformés, donc tout ce qui est produits qu'on appelle raffinés, le pain blanc, tout ce qui est fast-food aussi, l'alimentation et les boissons sucrées, enfin, tout le rayon des boissons sucrées, malheureusement, et y compris les...
Même zéro sucre.
Alors, zéro sucre, ça veut dire light. Remplacé par l'aspartame, c'est ça. Alors, c'est à double tranchant, l'aspartame, parce que au point de vue calorique, ça ne fait pas grossir, en fait. L'aspartame, zéro sucre, c'est zéro calorie, ça ne vous fait pas grossir. Mais par contre, le fait de consommer régulièrement de l'aspartame, enfin ce qu'on appelle les édulcorants, ça augmente l'appétence au sucre, c'est-à-dire que ça augmente l'envie du sucre. Et donc, les pays qui utilisent de l'aspartame, par exemple, ils ont plus d'obèses que les autres, parce que plus on mange des produits light, qu'on dit, plus on a tendance à aller en manger, chercher d'autres produits sucrés. Et donc, finalement, on grossit plus, en fait, indirectement. Ça, sans oublier l'effet direct de l'aspartame, il y a des zones encore d'ombre qu'on n'est pas sûr qu'il n'est pas sans risque pour d'autres problèmes de santé.
Vous avez parlé de l'obésité.
Le mieux, c'est de l'eau, en fait.
Oui, bien sûr. Vous avez parlé de l'obésité et généralement, quand on en entend parler de l'obésité, on croit c'est avoir un poids vraiment énorme. Mais je pense qu'il suffit d'avoir le kirsch, ou le ventre.
Le ventre.
Ça peut favoriser, je pense, ce problème.
Alors, c'est une question très importante. Parce que on a parlé de ce qu'on appelle l'IMC, c'est l'indice de masse corporelle.
Il y en a qui ne sont pas gros, mais ils ont du ventre, oui.
Donc l'IMC, ce n'est pas vraiment l'élément parfait pour évaluer un patient avec l'obésité et tout ça. C'est un élément qu'on utilise maintenant parce que c'est pratique, mais il y a un autre élément qui est très important pour aider à bien cibler le patient, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle le tour de taille, c'est-à-dire la graisse viscérale. Chamadi el kirsch, comme on dit. Donc la graisse viscérale augmente le risque cardiovasculaire d'une façon assez très importante. Et ça peut se calculer avec un tour de taille, avec un mètre, et on mesure. Normalement, pour une femme, le tour de taille, il faut qu'il soit moins de 80 cm. Pour un homme, c'est moins de 94 cm. 80 cm pour les femmes.
Donc il faut mesurer tout à l'heure.
On va mesurer après.
Et pour les femmes, c'est 80.
80 pour les femmes, 94 pour les hommes.
D'accord.
Et donc, c'est un élément important parce que, en fait, l'IMC varie aussi en fonction. Par exemple, certaines ethnies, ils ont tendance à avoir de la graisse viscérale alors qu'ils n'ont pas encore un IMC supérieur à 30. C'est-à-dire, ils ont notamment le sud-est asiatique, les hindous, tout ça. Ils commencent à avoir la graisse viscérale plus importante alors qu'ils sont, à peine en surpoids. Et dans ces cas-là, ils ont déjà un risque et souvent, ils développent le diabète beaucoup plus tôt que d'autres ethnies comme
généralement on dit quand on dépasse le chiffre que vous avez donné, 80 pour les femmes et 90 pour les hommes,
94
pour les hommes, il y a un risque de diabète type 2.
Oui,
donc
oui,
il faut
faire très attention. Tout à fait.
Donc docteur, quand on a parlé de fast food tout à l'heure, j'aimerais bien qu'on réexplique ce point-là. Surtout, il y a beaucoup de jeunes et des adolescents qui nous écoutent, il y en a qui sont même avec nous dans le studio. On profite pour passer ce message important, docteur, parce que je vois que tous les jours, ils mangent à l'extérieur. Mmh. Et qu'est-ce que vous leur conseillez de manger, par exemple, entre midi et 14 heures?
Alors, tout d'abord, j'aimerais bien passer un message. Le premier, qu'il ne faut pas interdire. C'est-à-dire, tout le monde a droit, de temps en temps, de faire
de temps en temps. Combien de fois par semaine, pour être vraiment clair?
Normalement, il ne faut pas dépasser une fois par semaine, quoi. Mmh. Donc, les fast-foods et tout ça, donc le moins possible, à condition qu'on accompagne, c'est-à-dire quand les autres jours de la semaine, qu'on mange assez équilibré, qu'on fasse un peu d'hygiène de vie, un peu d'activité physique, etc. Donc, il ne faut pas faire non plus de régime, maintenant c'est dépassé, c'est-à-dire régime dur, restrictif. C'est-à-dire, voilà, je mange un morceau de poulet ou un morceau de viande avec une salade et rien du tout, et un verre d'eau. Non, ça, c'est pas le régime restrictif. C'est ce qu'elle donne très souvent, ce qu'on appelle les gens qui partent en le régime yo-yo, quoi. C'est-à-dire, on maigrit très vite, on regrossit plus vite, et parfois, on reprend des kilos en plus. Et donc, il faut le régime restrictif, on perd très vite. Mais on reprend aussi vite, et c'est pour ça que c'est pas bon du tout, il n'est pas conseillé. Le mieux, c'est de supprimer les aliments qui sont nocifs, par exemple les fritures, éviter les boissons sucrées, éviter les produits très salés, éviter les produits transformés, tout ce qui est industriel. Avec ça, même si vous perdez que doucement, vous perdez sûrement, et dans le temps, vous y gagnez. Voilà, donc, doucement. Mm-hmm. Et ça ne vous empêche pas, à l'occasion...
Généralement, les jeunes, ils n'aiment pas quand on leur dit les fast-food, ce n'est pas bon, et tout, je suis une maman, et j'ai le même problème avec mon fils. Il me dit, maman, je suis jeune, mais le problème, je pense, il ne paraît pas tout de suite, c'est après 20 ou 30 ans, c'est là où ça commence les problèmes.
Ah oui, tout à
juste
fait.
Juste pour que ça, on soit clair avec les jeunes.
Oui. Mm-hmm. Mais, évidemment... Mais par contre, je veux dire, parfois interdire, ça va dans le sens contraire des fois.
Deux fois par semaine,
temps
ça
en
passe.
Temps, voilà,
et le soir, manger à la maison,
puis,
c'est bien.
Voilà. Il ne faut pas manger du fast-food plusieurs fois par semaine. Mm-hmm. Dans le mieux, c'est de ne pas en manger. Mais quand il y a besoin, voilà, manger une fois
par semaine. On ne peut pas interdire. De toute façon, coule même le marrobe. Quand on t'interdit, il s'accroche plus. Donc, ce n'est pas une bonne solution. Alors, quels sont les traitements médicaux disponibles aujourd'hui pour lutter contre l'obésité, docteur Khayat?
Alors, les moyens pour lutter contre l'obésité, il y a plusieurs moyens. D'abord, l'activité physique, augmenter un peu l'activité physique.
Malheureusement, il y a beaucoup de sédentarité aujourd'hui chez les jeunes.
La sédentarité, oui.
S'il bougeait au moins, peut-être il brûle ses calories qu'il en mange tous les jours. Mais malheureusement, ils ne bougent pas trop, ils sont sur leur téléphone, ils ne font pas d'efforts, ils ne font pas d'activité physique.
L'activité physique, même si on sait que l'activité physique seule ne permet pas de maigrir, mais l'activité physique, ça permet d'harmoniser son corps, d'avoir confiance, et ça permet un peu d'équilibrer. Donc, ça permet de diminuer son risque vasculaire, etc. Donc, l'activité physique, on demande aux personnes minimum de faire 30 minutes de marche tous les jours. Ça, c'est la moindre des choses. Après, les gens qui font du sport en salle et tout ça, d'aller au moins deux fois par semaine avec un minimum d'une heure, voilà. Sinon, après l'alimentation, je viens d'en parler, donc ça ne veut pas dire qu'il faut... Moi, ce que je demande, c'est de supprimer les sucres rapides, mais vous savez que notre corps, il a besoin d'entre 50 et 55% de sa ration calorique en sucre. Mais c'est du sucre complexe, ça veut dire ce qu'on trouve dans tous les autres produits, les pâtes, les pains, le riz, dans tous les autres aliments. Donc, une alimentation équilibrée... L'alimentation équilibrée, un repas normal, c'est une crudité en entrée, un plat avec une protéine, viande, poisson, etc. Un quart d'assiette, un peu de féculent ou du pain, Et l'autre moitié de l'assiette, c'est des légumes verts. Et les desserts, il faut que ça soit des fruits. Il faut éviter les crèmes, les gâteaux et tout ça. Après, vraiment, de temps en temps, à l'occasion d'une fête, il faut manger plutôt des fruits. Et puis la boisson, de l'eau, voilà. Donc, l'activité physique, on a parlé. L'alimentation, c'est ça. Ensuite, si on n'arrive pas avec ces deux choses qui sont importantes, on peut soit les médicaments... Ou alors si l'obésité, on n'y arrive pas malgré les médicaments. Vous savez que la chirurgie bariatrique fait aussi des choses qui sont très bonnes aussi, qui sont très...
Quelle est la place de cette chirurgie dans la prise en charge de l'obésité, docteur?
Alors, quand on a un échec des autres moyens actuellement, ce que je viens de dire, l'activité physique, l'alimentation... Et éventuellement les médicaments, donc je vais vous en détailler après. La chirurgie est indiquée dans ces cas-là parce que ça permet de diminuer beaucoup de risques, notamment ça permet de diminuer le risque de diabète, etc. Mais c'est indiqué avec des choses très très précises. On ne peut pas faire de la chirurgie si on a un IMC moins de 40. On a le droit de faire entre 35 et 40 quand on a d'autres maladies. Par exemple, si quelqu'un a du diabète, on peut réduire un petit peu ce niveau-là du IMC entre 35 et 40, c'est faisable, ce qu'on appelle la chirurgie métabolique. Pour le... Donc, il faut, et en absence de contre-indication, bien sûr, pour la chirurgie, et dans ces cas-là, surtout pour la chirurgie massive, c'est-à-dire au-delà de 50, là, la chirurgie bariatrique, s'il y a deux techniques qu'on utilise le plus souvent maintenant, c'est la chirurgie, la sleeve, c'est-à-dire on coupe une partie de l'estomac, et puis vous avez le bypass, une sorte de shunt entre digestif qui met avec une surveillance bien sûr, surtout pour le bypass, il y a des prises de vitamines toute la vie après et une surveillance avec votre médecin traitant ou avec votre endocrino régulière.
Docteur Khayat, en tant qu'endocrinologue, quel rôle jouez-vous dans l'accompagnement des patients obèses et quelles sont les étapes clés de ce suivi?
Alors, le suivi, d'abord, quand on a un patient obèse, donc on l'examine, bien sûr, on calcule l'IMC. Après, on essaye un petit peu de vérifier le retentissement. Ça veut dire, est-ce que cette obésité a des effets déjà sur sa santé? C'est-à-dire, est-ce qu'il a de l'hypertension artérielle? Est-ce qu'il a du diabète? Est-ce qu'il a de l'arthrose? Est-ce qu'il a, etc. On évalue tout ça. Il faut traiter tous les autres, les conséquences de l'obésité et aussi après le prendre en charge, c'est-à-dire, éventuellement lui conseiller ce que je viens de dire, le régime alimentaire, l'activité physique et les médicaments. Actuellement, il existe deux médicaments maintenant qui sont très largement prescrits dans le monde et il y a un engouement d'ailleurs très... J'étais impressionné parce que ces deux médicaments qui sont arrivés en France il y a très peu de temps, aux États-Unis un peu plus, qui ne sont pas remboursés, qui coûtent assez cher, mais qui sont très très efficaces. C'est des médicaments, c'est des hormones en fait, c'est deux médicaments, ils sont issus de recherches, c'est des hormones fabriquées par notre intestin fabrique ces hormones-là, et ces hormones augmentent la satiété, d'accord, et réduisent un peu la vidange gastrique, et ça permet de baisser le poids d'une façon vraiment très très efficace, avec... très peu d'effets secondaires, c'est surtout un peu de nausée. Donc il y a deux produits qui sont commercialisés un peu dans le monde, c'est le médicament qui s'appelle Wegovy, il y a un autre médicament qui s'appelle le Mounjaro, qui sont très très prescrits actuellement et qui sont très efficaces sur le poids.
Merci beaucoup, docteur Khayat, pour ces réponses éclairantes et pour votre engagement vers la santé de vos patients. L'obésité est un défi complexe, c'est pas évident, mais avec une meilleure compréhension et des actions adaptées, il est possible de prévenir et de surmonter ses impacts.